31. Quand Seldon s'éveilla, ce fut pour découvrir un nouveau visage qui le fixait, solennel. Un instant, il fronça les sourcils, ahuri, puis dit « Eumine ?» Ce dernier sourit imperceptiblement. « Vous vous souvenez donc de moi ?»« Cela n'a duré qu'une journée il y a 2 mois, mais je m'en souviens. » Vous n'avez pas été arrêté, donc, ni, comme vous le voyez, je suis ici parfaitement sain et sauf. Mais... Il jeta un coup d'œil à Dors qui se tenait à l'écart. Ça n'a pas été facile d'y parvenir. Je suis bien content de vous voir. Au fait, vous permettez? Du pouce, il désignait le cabinet de toilette. Je vous en prie, prenez votre temps et mangez un peu. Eumine ne prit pas le petit déjeuner avec lui, Dors non plus. D'ailleurs, ils n'ouvrirent pas la bouche. Eumine parcourut un vidéolivre avec un air délibérément absorbé. Dors inspecta ses ongles d'un œil critique, puis, sortant un micro-ordinateur, elle se mit à prendre des notes avec un crayon optique. Seldon les examina, pensif, et ne chercha pas à entamer la conversation. Le silence du moment était peut-être dû à quelques réserves trentoriennes coutumières au chevet d'un malade. Il se sentait parfaitement bien, mais peut-être ne s'en était-il pas rendu compte. Lorsqu'il eut mastiqué le dernier morceau et bu la dernière goutte de lait, auquel il s'était si bien habitué qu'il ne lui trouvait même plus un goût bizarre, Eumine retrouva brusquement sa langue, pour demander « Comment vous sentez-vous, Seldon ?»« Parfaitement bien, Eumine. »« Assez bien, en tout cas, pour être sur pied et sortir. »« Je suis heureux de l'apprendre, » dit Eumine sèchement. Dors Venabili est impardonnable d'avoir laissé une telle chose se produire. Seldon fronça les sourcils. Non. C'est moi qui ai insisté pour monter sur la couverture. J'en suis sûr. Mais elle aurait dû à tout prix vous accompagner. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle vienne. Dors intervint. Ce n'est pas vrai, Harry. Inutile de me défendre par des mensonges galants. Mais n'oubliez pas, poursuivit Seldon en colère, que Dors est aussi montée à ma recherche, malgré de fortes résistances, et qu'elle m'a sans aucun doute sauvé la vie. Ça, ce n'est pas un mensonge. Aviez-vous ajouté ce détail à votre évaluation, Eumine ? Dors l'interrompit à nouveau, visiblement embarrassé. Je vous en prie, Harry. Chester Eumine est parfaitement en droit d'estimer que j'aurais dû vous dissuader de monter sur la couverture, ou alors vous y accompagner. Quant à mes actions ultérieures, il m'en a félicité.
Quoi qu'il en soit, reprit Eumine, tout cela est du passé. Restons-en là.
Parlons plutôt de ce qui vous est arrivé sur la couverture, Seldon. Ce dernier regarda autour de lui et demanda sur ses gardes « Est-ce bien prudent ?» Petit sourire de Eumine. Dors a placé cette chambre dans un champ de distorsion. Je suis quasiment certain qu'aucun agent de l'Empire infiltré à l'université, s'il en existe, n'est capable de le pénétrer. Vous êtes soupçonneux, Seldon. Pas par nature, mais à vous écouter dans le parc et par la suite. Vous êtes un individu persuasif, Eumine. Quand vous avez eu terminé, j'étais prêt à voir le redoutable étau d'Emerzel derrière chaque ombre.
J'ai parfois l'impression qu'il pourrait y être, fit Eumine sans ciller.
Si c'était le cas, je ne pourrais pas le savoir. À quoi ressemble-t-il?
Peu importe. De toute manière, vous ne le verriez pas, à moins qu'il le veuille. Et à ce moment-là, tout serait terminé, j'imagine. Ce qu'il nous faut éviter à tout prix.
Parlons plutôt du vertijet que vous avez aperçu. Comme je vous l'ai dit, Eumine, vous m'avez pénétré de la peur de Demerzel. Sitôt que j'ai vu le vertijet, j'ai pensé qu'il était à mes trousses, que j'avais sottement quitté la protection du campus de Strilling en montant sur la couverture, qu'on m'y avait attiré délibérément dans le but de m'enlever sans difficulté.
D'un autre côté, intervint Dors, Legan était-il ici hier soir?
Pressa Seldon.
Oui? Vous ne vous souvenez pas?
Vaguement. J'étais mort de fatigue, tout se brouille dans ma tête.
Eh bien, quand il était ici hier soir, Legan a dit que le vertijet n'était qu'un simple appareil météorologique d'une station voisine, parfaitement ordinaire, parfaitement inoffensif.
Quoi? Seldon était abasourdi.
Je n'en crois rien.
Hermine intervint. Là est la question.
Pourquoi n'en croyez-vous rien?
Y avait-il quelque chose dans ce vertijet qui vous l'a fait estimer dangereux? Quelque chose de précis, je veux dire? Et non un vague soupçon que je vous aurais mis dans la tête?
Seldon réfléchit à la question, en se mordillant la lèvre inférieure.
Son comportement, dit-il enfin.
Il donnait l'impression de pointer le nez sous le plafond nuageux, comme s'il cherchait quelque chose.
Puis il réapparaissait à un autre endroit, réitérant sa manœuvre ailleurs encore et ainsi de suite, comme s'il fouillait méthodiquement la couverture, section par section, en se dirigeant sur moi.
Peut-être avez-vous eu une hallucination? Vous avez assimilé le vertijet à quelque animal bizarre lancé à vos trousses?
Ce n'était pas le cas, bien sûr. C'était simplement un vertijet. Et s'il s'agissait bien d'un vaisseau météorologique, ses manœuvres étaient parfaitement normales et inoffensives.
Ce n'est pas l'impression que j'ai eue.
J'en suis certain, mais... En fait, nous ne savons rien de concret.
Votre conviction d'avoir couru un danger repose sur une simple supposition. Et quand Legan identifie un engin météorologique, c'est également une supposition.
Seldon s'entêtait.
Je n'arrive pas à croire qu'il puisse s'agir d'un événement totalement innocent.
Eh bien, dans ce cas, reprit Hermine, supposons le pire. Que le vaisseau vous recherchait effectivement. Comment celui qui a expédié cet appareil pouvait-il savoir qu'il faudrait justement vous rechercher là-haut?
J'ai demandé au docteur Legan, intervint Dorse, s'il avait indiqué dans le communiqué annonçant sa prochaine sortie que le docteur Harry Seldon serait dans le groupe. Normalement, rien ne l'y obligeait, et il a nié l'avoir fait, non sans se montrer fort surpris par ma question.
Je l'ai cru.
N'allez pas le croire trop vite, dit Hermine songeur. De toute manière, n'aurait-il pas nié?
À présent, demandez-vous pourquoi il a laissé Seldon les accompagner.
Nous savons qu'il a tout d'abord soulevé des objections, mais ensuite il s'est laissé convaincre sans trop discuter. Et là, je trouve que ça ne lui ressemble pas.
Dorse fronça les sourcils. Je suppose que cela conforte l'hypothèse qu'il aurait arrangé toute l'opération. Peut-être a-t-il permis à Harry de l'accompagner pour le mettre en position de se laisser cueillir. Il aurait pu recevoir des instructions en ce sens.
Dans le même ordre d'idées, nous pouvons admettre qu'il a encouragé sa jeune interne, Clausia, à capter l'attention de Harry pour l'attirer hors du groupe et l'isoler.
Cela expliquerait l'étrange sang-froid de Legan devant la disparition de Harry au moment de redescendre.
Il maintenait que Harry était rentré plus tôt.
Il avait d'ailleurs tout fait pour cela, lui ayant montré comment procéder pour redescendre seul.
On comprendrait aussi sa réticence à remonter sur la couverture. Il n'avait pas envie de chercher quelqu'un qu'on ne retrouverait pas, à ce qu'il croyait.
Hermine, qui avait écouté attentivement, remarqua.
C'est une accusation intéressante.
Mais ne l'acceptons pas trop facilement. Après tout, il a bien fini par monter avec vous sur la couverture.
Parce qu'on avait détecté des pas. Le chef sismologue en avait porté témoignage.
Eh bien, Legan a-t-il accusé le coup quand Seldon a été retrouvé? Je veux dire en dehors de la surprise de retrouver quelqu'un qui courait un péril extrême du fait de sa propre négligence. S'est-il comporté comme si Seldon n'aurait pas dû être là? Comme s'il se demandait « Pourquoi ne l'ont-ils pas récupéré ?»
Après mûre réflexion, Dorse répondit. Il était manifestement choqué par la vue de Harry gisant là dans la neige. Mais je ne saurais dire si son attitude trahissait autre chose que l'horreur fort naturelle de cette situation.
Non, je suppose que non.
Mais voilà que Seldon, qui jusque-là les observait l'un et l'autre en écoutant attentivement la discussion, remarqua.
Je ne crois pas que ce soit Legan.
Hermine reporta son attention sur lui.
Pourquoi dites-vous ça?
Primo, comme vous l'avez noté, il rechignait manifestement à l'idée que je l'accompagne. Il a fallu, pour le convaincre, discuter toute une journée, et je crois qu'il a accepté uniquement parce qu'il avait l'impression que j'étais un mathématicien doué et susceptible de l'aider à mettre au point sa théorie météorologique. J'avais quant à moi la plus grande envie de monter là-haut, et s'il avait eu des instructions pour veiller à ce que je gagne la couverture, il n'aurait pas eu besoin de se montrer aussi réticent.
Est-ce raisonnable de supposer que seules vos connaissances mathématiques l'intéressaient?
A-t-il discuté mathématiques avec vous? A-t-il fait une tentative pour expliquer sa théorie?
Non, dit Seldon. Pas du tout.
Il a bien évoqué la possibilité d'aborder la question plus tard.
Le problème, c'est qu'il était entièrement accaparé par ses instruments.
J'ai cru comprendre qu'il avait escompté une éclaircie qui ne s'est pas produite. Il avait espéré mettre cette erreur de prévision sur le compte d'une défaillance de ses appareils. Mais apparemment, ceci fonctionnait très bien, d'où son irritation.
Je crois que cet incident imprévu a tout à la fois aigri son humeur et détourné son attention de moi.
Quant à Clausia, la jeune femme que j'avais soupçonnée quelques instants, je n'ai plus l'impression, maintenant que j'y repense, qu'elle m'ait éloigné de propos délibérés.
L'initiative venait de moi. J'étais curieux de découvrir la végétation de la couverture, et c'est plutôt moi qui l'ai entraîné à l'écart.
Loin de l'encourager dans cette voie, Legan, bien au contraire, l'a rappelé alors que j'étais encore visible, et c'est tout seul que j'ai poursuivi ma route pour disparaître de leur vue.
Pourtant, reprit Eumine qui semblait prendre un malin plaisir à réfuter toutes les suggestions,
« si ce vaisseau vous cherchait, son équipage devait bien être prévenu de votre présence. Comment aurait-il pu l'être sinon grâce à Legan ?»«
L'homme que je soupçonne, dit Seldon, est un jeune psychologue, du nom de Lizung Randa. »«
Randa ?» s'étonna Dors.
« Je ne peux pas le croire. Je le connais bien. Il ne travaillerait certainement pas pour l'empereur. C'est un anti-impérialiste convaincu. »
Il pourrait faire semblant de l'être, remarqua Seldon.
En fait, il lui faudrait se montrer ouvertement, violemment, farouchement anti-impérialiste s'il voulait cacher qu'il est un agent de l'Empire.
Mais c'est exactement ce qu'il n'est pas, reprit Dors. Il n'est ni violent ni extrémiste, c'est un garçon calme et jovial, et qui exprime toujours ses opinions de manière discrète, presque timide.
Je suis convaincu qu'elles sont sincères.
Et pourtant, Dors, dit Seldon avec conviction. C'est lui qui m'a parlé le premier du projet météorologique, lui qui m'a convaincu de monter sur la couverture, et lui qui a persuadé Legan de m'autoriser à l'accompagner, non sans exagérer quelque peu mes prouesses mathématiques à cette occasion.
On pourrait se demander pourquoi il était si pressé de me voir monter là-haut, pourquoi il y a consacré tant d'efforts.
Pour votre propre bien-être, peut-être. Il s'intéressait à vous, Harry. Il doit avoir pensé que la météorologie pouvait être utile à la psychohistoire. N'est-ce pas possible ?
Eumine intervint calmement. Considérons un autre point. Il s'est écoulé un délai notable entre le moment où Randa vous a parlé du projet météorologique et celui où vous êtes effectivement monté sur la couverture. Si Randa est innocent de toute manœuvre subversive, alors il n'avait aucune raison particulière de garder le silence à ce sujet.
Si c'est un individu amical et sociable, il l'est, confirma Dors.
Alors il est fort probable qu'il en a parlé à un certain nombre d'amis. Et dans ce cas, nous ne pourrons jamais identifier l'éventuel informateur.
Nous pouvons aussi supposer que Randa est bel et bien un anti-impérialiste. Cela n'en fait pas pour autant un espion.
Nous devrions nous demander. De qui est-il l'agent? Pourquoi travaille-t-il?
Seldon était abasourdi.
Pour qui travailler sinon pour l'Empire? Pour qui d'autre que des Merzel?
Eumine leva la main.
Vous êtes loin de saisir la politique trentorienne dans toute sa complexité, Seldon.
Il se tourna vers Dors.
Redites-moi quels étaient les quatre secteurs cités par le docteur Legan comme base éventuelle d'un vaisseau météorologique.
Estelonia, Cannes, Zigorette et Damien au nord.
Et vous n'avez pas orienté votre question.
Vous n'avez pas demandé si tel secteur en particulier pouvait être à l'origine de cette visite.
Non, absolument pas. J'ai simplement demandé s'il pouvait émettre une hypothèse quant à l'origine de cet appareil.
Et vous ?
Eumine s'était tournée vers Seldon.
Vous avez peut-être relevé une marque ou un signe quelconque sur le Vertijet.
Seldon faillit rétorquer que l'appareil était à peine visible à travers les nuages, qu'il n'avait émergé que brièvement, que lui-même ne cherchait pas à lire des marques distinctives mais simplement à s'échapper, mais il se retint.
Nul doute que Eumine sut déjà tout cela. Au lieu de quoi, il dit simplement « J'ai bien peur que non. »
Dorse reprit. « Si le Vertijet était chargé de venir l'enlever, ses insignes n'auraient-ils pas été masqués ?»«
C'est une supposition raisonnable, » reconnut Amin, et c'était peut-être le cas. « Mais dans cette galaxie, la raison ne triomphe pas toujours. Toutefois, puisque Seldon ne semble pas avoir spécialement prêté attention à l'appareil, nous ne pouvons que spéculer. Pour ma part, je chercherai du côté de Khan.
Quand ?» répéta Seldon. « Quand ils auront estimé mes recherches suffisamment avancées pour justifier leur opération, non. Non. »
Amin leva l'index droit comme s'il donnait un cours à un jeune étudiant.
« Khan. K-A-N. C'est le nom d'un secteur de Trantor. Un secteur très particulier, dirigé par une lignée de mères depuis quelque 3000 ans. Une lignée continue. Une unique dynastie. » Il y a quelque 5 siècles, 2 empereurs et une impératrice ont été originaires de Khan. Ce fut une période assez brève et aucun des monarques de la lignée de Khan ne s'est particulièrement distingué par ses réussites ou ses prouesses. Mais les mères de Khan n'ont jamais oublié ce passé impérial. Ils n'ont pas été activement déloyaux envers les maisons qui leur ont succédé, mais aucun ne s'est fait remarquer par son dévouement à leur égard. Durant les quelques périodes de guerre civile, ils ont entretenu une politique de bascule, apparemment neutre, mais agissant de façon à favoriser pratiquement la prolongation de la guerre civile, ce qui aurait pu rendre nécessaire un recours à Khan pour trouver une solution de compromis. Ça n'a jamais abouti, mais ils n'ont pas cessé d'essayer. L'actuel maire de Khan est un homme tout à fait sagace. Il est aujourd'hui âgé, mais son ambition est intacte. S'il arrive quoi que ce soit à Cléon, y compris une mort naturelle, le maire aura une chance de lui succéder, le fils de Cléon étant actuellement trop jeune. L'opinion publique a toujours eu un a priori favorable à l'égard des prétendants dont l'arbre généalogique remonte à un empereur. En conséquence, si le maire de Khan a entendu parler de vous, vous pourriez utilement jouer les prophètes scientifiques au service de sa maison. Khan y trouverait le prétexte idéal pour imaginer un moyen quelconque d'éliminer Cléon en se servant de vous pour prédire l'inévitable succession de la maison de Khan au trône et l'avènement d'une ère de paix et de prospérité pour le millénaire à venir. Bien entendu, une fois le maire de Khan au pouvoir, vous deviendriez inutile et vous auriez toutes les chances de suivre Cléon dans la tombe.
Seldon rompit le lourd silence qui s'ensuivit en remarquant «
Mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit le maire de Khan qui est à mes trousses.
Non, certes, ni même si vous avez quelqu'un à vos trousses en ce moment.
Le Vertijet pourrait très bien, après tout, être un banal vaisseau de recherche météorologique, comme l'a suggéré Legan.
Toutefois, à mesure que va se répandre l'information concernant la psychohistoire et ses retombées potentielles, et elle va fatalement se répandre, on va voir de plus en plus de puissants et de semi-puissants sur Trantor ou même ailleurs, tenter d'accaparer vos services.
Dans ce cas, demanda Dorse, qu'allons-nous faire?
C'est effectivement la question.
Amin rumina quelques instants, puis répondit.
Peut-être était-ce une erreur de venir ici. Pour un professeur, le choix d'une université comme Cachette est trop prévisible. Strilling en est une parmi d'autres. Mais c'est l'une des plus grandes et des plus libres. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que les antennes des uns et des autres s'orientent discrètement par ici.
Je pense qu'il faudrait au plus tôt, aujourd'hui peut-être, transférer Seldon vers une meilleure cachette.
Mais, dit l'intéressé.
Mais je ne sais pas où.
Appelez un index géographique sur l'écran du terminal, suggéra Seldon, et choisissez un lieu au hasard.
« Certainement pas, » dit Amin.
« Si nous faisons cela, nous avons une chance sur deux de trouver un endroit moins sûr que la moyenne.
Non.
Il faut faire un choix raisonné, d'une manière ou d'une autre.